bonjour ou bonsoir, parce que c'est un petit peu la sensation qu'on a. Hein. On va commencer dans quelques minutes. Chercher de l'eau. Ah, pardon.
Okay, the meeting has not started yet.
Bien. La réunion n'a pas encore commencé. Pam est avec nous à distance. Il va suivre notre travail. Bien, Pam, est-ce que vous pouvez nous adresser quelques mots, s'il vous plaît? Hello, vous m'entendez? Olivier, c'est Darlene. Est-ce que vous m'entendez? On ne vous entend pas bien. Il vous faut peut-être vous reconnecter. On vous entend très mal. Bien, Pam, est-ce que vous pouvez essayer de vous connecter? Oui, je suis là. Très bien, nous vous entendons. Bien, nous allons commencer notre réunion. Commençons la séance de la réunion d'at-large avec tout ce qui concerne la partie de compliance de ICANN. Nous avons une série de questions à discuter. Il y a Maggie Sarat qui est avec nous, avec son équipe, pour répondre à une série de questions que nous avons envoyées. Une série de questions que j'ai envoyées et je sais qu'il y a une présentation qui va être faite. Donc, peut-être que je vais passer aux questions qui ont été envoyées. D'abord, les questions qui n'ont pas été terminées, les plaintes de base, la publication du cycle complet des registraires. Et la question légale avec les questions légales avec certains registraires au bureau d'enregistrement, la révision de WDPRS, des réponses WPRS, l'exploitation des consommateurs dans le DNS, ensuite les questions telles que le dépôt de données WHOIS et la mise à jour de ICANN et les amendements proposés aux RA, et ensuite un registrant plus agréable pour les utilisateurs. Je pense que nous aurions besoin de 10 heures pour travailler là-dessus, mais nous avons juste une heure, je suis navrée de vous le dire. Donc, j'espère que nous n'avons pas besoin d'attendre que la présentation se charge ici. Un petit point important avant qu'on commence. Lorsque les questions sont posées, s'il vous plaît, donnez votre nom complet. Et avant de poser la question, parlez. Et quand vous posez la question, parlez doucement parce que nos interprètes sont des êtres humains et ils ont du mal à parler trop vite. Quand vous parlez trop vite, ils ont du mal à traduire. Matt, je vous demanderai aussi de commencer. Peut-être on pourrait commencer par quelques paroles de Maggie et ensuite peut-être par quelques questions. Il nous faut vraiment être prêt maintenant à démarrer. Ça serait bien. Bonjour à tous. Merci de m'avoir donné la possibilité de m'adresser à vous. Avant de commencer, je voudrais me présenter. Je suis Maggie Sarad. Je suis la responsable du service de conformité d'ICANN. Et j'ai avec moi Khalil Rachid, qui travaille avec moi, Stacy Burnett aussi, et de Sydney en Australie, notre bureau, nous avons une équipe aussi. Donc, nous avons aussi Maggie qui nous écoute. Nous avons besoin d'entendre vos commentaires, hein, tous. Donc, on veut être présents pour les entendre. Aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui, nous allons avoir une approche un peu différente de la question réunion des multipartites. Le mardi est une réunion importante, est une journée importante pour nous parce que nous avons 5 réunions. Aujourd'hui, nous sommes. Je vois qu'il n'y a pas vraiment les mêmes têtes qu'à Singapour, hein. Mais la dernière fois, on m'a dit on ne veut pas de présentation. Donc, je ne fais pas de présentation, mais je vais vous envoyer cette présentation à travers Matt qui va vous la faire parvenir. Parce que nous avons fait beaucoup de travail. C'est important que vous sachiez ce qu'on fait derrière la scène, dans les coulisses. Aujourd'hui, j'ai collaboré avec Olivier. Et depuis les deux dernières réunions de Singapour, du HALAC, nous avons fait une liste de problèmes qu'il considérait Et je crois que ce problème a été considéré du point de vue des regroupements et de perspectives de la conformité. Je ne vais pas vous présenter les problèmes des registraires en particulier. Nous allons parler d'un message général pour tous les points de notre ordre du jour que Olivier a mentionné. Donc, nous avons reçu le sujet qui nous a été soumis en novembre, et notre objectif était d'aborder ces questions et d'éclaircir vos doutes. Olivier et ma, on a déjà vu avec Olivier les différents points de notre ordre du jour, et il y a 9 questions que nous avons reçues, 9 domaines, et il s'agit ici d'un résumé des secteurs dans lesquels il faut améliorer les choses. Il y a différents secteurs dans lesquels la conformité n'est pas encore vraiment... On a encore des choses à approfondir, des recherches à faire. Et donc, le rapport que nous allons vous envoyer et les rapports que vous nous allez nous envoyer, nous allons les envoyer à l'équipe d'ALAC pour que tout le monde soit un petit peu au courant de ces réponses. Donc, merci pour les bonnes idées que vous nous avez fait passer. Nous allons suivre tout ce qui concerne le guide. Nous allons publier tout ce qui concerne la conformité. Nous ne publions pas seulement parce que ça nous plaît. La communication est importante pour savoir quel est le message, le contenu de tout cela. Donc, nous explorons les domaines dans lesquels nous pensons que nous pouvons améliorer la communication. Il y a des secteurs qui demandent que des informations soient publiées. Ce n'est pas le domaine de mon secteur, de mon département. Vous devez parler avec ICANN pour qu'ils voient comment ils peuvent le faire. Ce n'est peut-être pas la solution que vous allez proposer, mais on peut présenter votre souci peut être présenté. On verra comment ça sera résolu ensuite. Je vais demander à ma collègue de vous expliquer un petit peu. On va commencer par la première question. N'oubliez pas qu'on regarde le thème, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que l'on extrait des recherches initiales, parce que ces recherches ne sont pas terminées. C'est ça qui est important. Merci, Maggie. Bonjour à tous, je suis Khaled Rachid. C'est un plaisir d'être ici et c'est une occasion de parler, d'entrer en contact avec des parties prenantes et des membres de la communauté. En ce qui concerne moi, mon rôle, je suis à ICANN depuis 4 ans. Pendant ces derniers mois, j'ai eu un nouveau mandat qui était d'évaluer les opérations de WHOIS, les systèmes de WHOIS, le travail de WHOIS, voir ce qui était efficace, ce qui n'était pas, ce qui ne fonctionnait pas. Donc, j'ai entrepris ce travail il y a 6 mois depuis Singapour. Vous savez qu'on a reçu un processus de management avec de nombreux rapports sur les problèmes qu'il y avait. J'ai commencé de nombreuses révisions de ces rapports. Donc, pour ceux qui vont voir notre présentation, pour ceux qui ne sont pas dans la salle, j'espère que vous voyez les diapos qui sont projetées ici. Voilà. Bien, voyons un petit peu ce que nous avons ici. La question en particulier à laquelle je vais répondre concernant la remise à jour de notre agenda est fournie par les membres d'ALAC en ce qui concerne une plainte qui a été faite à notre département il y a un an. Maintenant, en ce qui concerne la plainte que Maggie a exprimée, cette plainte est toujours en cours de révision. Il y a donc... Je ne peux donc pas parler de cette plainte en particulier, mais je voudrais vous dire une chose en général. D'abord, nous quand on fait une plainte contractuelle, nos efforts vont se baser sur les registres, les partenaires de business qui participent au contrat ou pas, et nous voir un petit peu ceux qui ne sont pas en conformité avec le contrat. Hein, et en ce qui concerne la conformité que nous avons vue, nous avons reçu des plaintes selon lesquelles il y a des registraires qui ne montrent pas leur contact primaire, leur email, leur adresse email, leur adresse de mail sur leur site web. Et c'est important de dire que les registraires sont accrédités dans le cadre de l'accord avec ICANN. Et donc, je dirais que 8% des registraires ont 99% sont encore sous le système d'accréditation de 2001. Il y en a quelques-uns qui sont pratiquement tous obligés de fournir ces informations. Nous pouvons faire de notre mieux pour essayer de résoudre ce type de problème. Et on a aussi dit qu'un grand nombre de registraires ne donnent pas un contact interactif avec les sites. Et si c'est le cas, ce n'est pas un prérequis qu'ils ont. Donc, j'ai regardé plusieurs plaintes. Certaines avaient été mises à jour et j'ai pu identifier qu'une série de registraires ont reçu ces plaintes parce qu'ils ne présentaient pas le nom de domaine. En outre, nous avons reçu des plaintes de CCTLD et il est important de souligner que les registraires qui sont accrédités dans le cadre du CCTLD peuvent avoir différents prérequis de contrat dans une organisation. Notre département en particulier n'est pas responsable de leur application. La raison pour laquelle je voulais dire cela, c'est parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'on était tous sur le même niveau en ce qui concerne les attentes. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Notre plainte est que quelqu'un a parlé des services de Whois ou des liens de Whois avec les fournisseurs de Whois. L'accord d'accréditation du registraire, il dit qu'un registraire doit fournir certains services et qu'il est responsable de fournir les services Whois. Donc, il faut que ce soit clair. Donc, si le registraire décide d'avoir un sous-contrat, le service Whois peut ne pas être disponible. Le registraire sera responsable dans ce domaine. Merci, Khalil. Avant de passer à la prochaine diapo, je voulais vous dire que nous allons voir la présentation et puis ensuite nous écouterons vos questions. Hein. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-les, comme ça nous vous donnerons la parole ensuite et vous pourrez nous dire vos questions. Bien, on passe donc on continue. Pour ceux qui font des coups de fil, sur la gauche de la diapo, nous avons mis la langue de ALAC, de la résolution d'ALAC, pour donc la conformité. Donc, et notre réponse ensuite de l'autre côté. Donc, l'explication est que ADLARGE va être notifié lorsque un nouveau registraire est accrédité. Notre position dans l'organisation est la suivante. Si nous voulons augmenter la transparence, l'ouverture et si nous voulons travailler avec des parties contractuelles et des parties non contractuelles, il faut faire cela. Hein? Donc, dans la mesure où nous pouvons le faire, nous voulons le faire, il nous faut aussi souligner que les nouvelles accréditations et le processus d'accréditation générale n'est pas fait par le département de conformité. Le rôle de ce département est de déterminer si oui ou non les parties contractées sont en désaccord avec ou sont conformes avec ce qui est établi. À nouveau, je dirais que dans la mesure où l'on peut augmenter la transparence en rendant public des informations, je peux recevoir vos commentaires. Hein? Et ALAC est là pour le faire. Je suis heureux de pouvoir le faire. Donc, mon idée serait qu'on pourrait faire des communiqués, on pourrait communiquer avec vous pour que tout le monde connaisse, sache qu'un nouveau registraire est entré et qu'on puisse être au courant de ce type de changement. Bien, maintenant, Maggie va vous parler du prochain point de l'agenda. Donc, le prochain point, On a attiré notre attention sur le cycle de la conformité des registraires. J'étais à Singapour et j'ai dit à notre audience, à notre public, que mon premier agenda pour les nouveaux arrivants était d'explorer un processus, voir les procédures à travers les organisations croisées. Vos commentaires, hein, les commentaires sont importants. Nous voulons voir une certaine cohérence, nous voulons avoir une certaine transparence. Et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que notre département aujourd'hui, la façon dont on a organisé nos structures, nous cherchons à organiser un système de prévention et d'application. La prévention, trois étapes dans ce cycle de prévention. D'abord, un système qui fait que la non-conformité va attirer notre attention. On va travailler avec un audit, avec une surveillance. On va faire d'abord une première recherche. On va contacter la partie qui est non-conforme. On va voir ce qui ne va pas et on va leur demander davantage d'informations. Si nous n'avons pas de réponse, nous allons commencer une deuxième investigation et nous allons leur téléphoner. Et outre le coup de téléphone, si nous n'avons pas reçu de réponse de leur part, nous allons commencer une enquête finale qui est basée sur un coup de téléphone, un email et un fax. À ce point-là, tout est transparent. C'est comme ça qu'on travaille au niveau interne avec les parties contractantes. Nous ne pouvons pas publier tout ce que nous faisons, bien sûr, hein. Donc, la première étape de la publication est atteinte lorsqu'on passe à la partie de l'application. Lorsqu'une partie n'a pas répondu à la troisième, au niveau de la troisième étape de prévention et qu'il ne répond pas, à ce moment-là, nous allons lui adresser une notice de suspension, hein, un avis de suspension qui est publié sur le site web. Nous continuons à travailler avec le registraire pendant la période de recherche. La brèche que nous avons identifiée se trouve sur l'écran, hein. C'est correct, nous ne sommes pas cohérents puisque nous publions une remise à jour concernant le fait que ces gens ont porté atteinte à, ont été non conformes, hein. Mais nous essayons d'explorer le processus, la fréquence et la remise à jour qui sont nécessaires. Donc, pour continuer avec cet avis d'enfreinte, hein, de non-conformité, je voudrais rappeler à notre audience, à notre public, qu'il faut du temps pour vérifier tout cela. Nous allons publier cela. Il y aura 15 jours. Hein, cette personne aura 15 jours pour fournir cette information. Cette personne a le temps de vérifier, mais ce qui compte, c'est que chaque cas est différent ici. Nous allons, quand vous voyez la façon dont nous, vous voyez comment nous travaillons. Il y a un point, hein, qui veut dire que nous allons entrer en action. Nous allons essayer de mettre des remises à jour et régulières. Et en ce qui concerne le troisième point pour la publication de la preuve de non-conformité du registraire, nous avons quatre domaines. Ce que j'aimerais, c'est vous parler de points généraux. Je ne vais pas parler de chaque point. Actuellement, nous publions les résultats de l'audit concernant la conformité. Et vous voyez ici les deux points avec des carrés. La preuve de la conformité, hein, nous avons amélioré notre processus et nous essayons d'ajouter quelque chose qui ne va pas être discuté aujourd'hui. Nous ajoutons un processus d'auto-évaluation pour les deux parties contractantes. Cette auto-évaluation va avoir des questions concernant tous les domaines du contrat, concernant les points de conformité envers le contrat. Et donc, cette auto-évaluation a été ajoutée, elle est en train d'être mise en place, elle est encore en phase de développement. Et dernièrement, une fois que cela est développé, nous pouvons publier les résultats pour les différentes catégories de preuves de conformité. Je n'ai pas de solution pour la façon dont ça va être publié. Nous avons beaucoup de registraires, donc c'est une solution que nous proposons. Mais nous vous écoutons. Donc, il y a la preuve de la conformité qui doit être transparente, hein. Nous avons aussi exploré des manières efficaces concernant le fait de poster des politiques. Je n'ai pas d'autre façon de le faire aujourd'hui. Donc, à nouveau, nous essayons d'explorer ce secteur. Ce que je voudrais rappeler, c'est que les équipes ont la possibilité d'avoir 4 ressources. Hein. À Singapour, j'étais la dernière personne qu'on pouvait joindre. Aujourd'hui, nous sommes 8 personnes. Je suis heureuse de vous dire que nous sommes aujourd'hui 8, ce qui représente les équipes qui existent hein, depuis 2 ans. Donc, si vous avez des problèmes hein, dans votre business et que vous n'arrivez pas à maintenir la lumière allumée, c'est ce qui nous arrive. Hein. Nous avons encore 3. Nous sommes en train d'essayer de voir comment travailler avec nos équipes. Parce que comme nous travaillons sur un modèle multipartite, nous cherchons à obtenir des compétences hein, de divers types. Hein, donc, trouver des personnes hein, qui puissent correspondre à tout cela, ça a été difficile. Et donc, voilà. Bien. Tout cela pour vous rappeler que nous sommes en train d'améliorer notre travail et nous essayons d'avancer. Cette diapo, nous l'avons ajoutée pour vous montrer les commentaires que nous avons reçus. Vous voyez, l'auto-évaluation. Hein, c'est les meilleures pratiques, hein, le secteur des meilleures pratiques. Nous avons donc des personnes qui sont en conformité depuis 20 ans. Hein, donc, nous avons ouvert une fenêtre annuellement. Nous envoyons une enquête. Nous permettons aux différentes parties de répondre, de former des preuves. En général, ils en ont pour un mois avant de pouvoir nous fournir tous ces documents. Puis, nous essayons de faire une évaluation et nous faisons un suivi. Nous ne le rangeons pas et nous disons, bon, on le verra après. Non, on va faire un suivi, on va étudier cela, analyser cela, le valider, surtout dans les secteurs dans lesquels nous savons qu'il y a des tendances à problèmes, des tendances à avoir des problèmes. Hein. Donc, on va essayer de nous assurer dans ces secteurs hein, que cela fonctionne bien. Mais nous nous sommes focalisés surtout au cours de ces derniers mois sur les actions préventives et sur les résolutions de type informel. Nous espérons que notre activité au niveau de la sensibilisation va augmenter parce que nous constatons très souvent que les défis se trouvaient au niveau de la diversité des interprétations, des méconnaissances, des problèmes de communication ou des fois seulement une question de petits problèmes. Hein. Donc, nous essayons de résoudre ces problèmes à mesure que nous les rencontrons. Et notre objectif pour 2012 est le même que ce que je viens de vous montrer. Hein. Et nous espérons que la prochaine fois que nous viendrons vous présenter notre travail, nous aurons un petit peu plus de données à vous donner. Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est Ali Rachid. Je vais vous parler de problèmes de certains registraires et des résolutions qui ont été faites par ALAC.
Of this situation and public statement on the findings. I think this specifically refers to 2 contracted parties who was brought to our attention that they were involved in lawsuits. And again, I just want to make it clear that the role of the Contractual Compliance Department is to determine whether or not parties are in compliance with the contract. Can you all hear me in the back? I seem to see. You can hear me okay? So what we
Excusez-moi.
Do...
Excusez-moi. We're getting French on the English channel.
Est-ce que je devrais faire une pause ou bien...
Dis-leur que tu t'es trompé.
Je voulais juste corriger quelque chose. La résolution, et c'est Olivier Crépin, le blanc pôle, au fin d'enregistrement, c'est un de nos membres de nos ALS vous a fourni tout un document avec beaucoup de spécificités et ce document vient des ALS, pas de ALAC lui-même. Il n'y a pas de résolution provenant de ALAC. Donc, il faut faire attention parce que cela implique davantage de choses. Bien sûr, je dirais que la majorité de nos membres n'ont pas vu les documents, sauf si ils ont passé le temps et ils sont intéressés à cela et ils ont passé le temps à le lire. Mais pour la résolution, il faut qu'il y ait un vote, beaucoup d'autres choses. Notre présentation a été faite auparavant, avant que nous parlions, et c'est vraiment au dernier moment. Mais à chaque fois qu'on dit résolution, nous parlons des détails qui sont dans ce document. J'appelle Merci. Dans la mesure où ceci ne s'applique pas pour, au corps à lac, je vais essayer de passer, de finir avec cela afin que vous puissiez poser des questions que vous aimeriez que je réponde. En général, ce que nous faisons, c'est que nous revoyons les rapports sur les violations AR et on voit s'il y a des poursuites ou pas. On ne suit pas les parties contractuelles qui sont dans les poursuites aux États-Unis. Il y a au moins 51 compétences juridictionnelles, un pour chaque État et un pour l'État fédéral. Donc vous pouvez imaginer les entités distinctes, le nombre que nous devrions suivre. Mais à chaque fois qu'il y a un rapport de non-conformité, nous le revoyons. Et s'il n'y a aucune escalade, la raison en est que c'est parce qu'il n'y avait aucune violation RAA. Donc, ça a été dit auparavant que le WDPRS, qui fait référence au système de report de WHOIS. Pour ceux qui n'ont pas l'expérience de cet acronyme ou de ce système, c'est un système qui permet à quiconque dans le monde de soumettre un rapport qu'un nom de domaine dispose d'informations inexactes. Et ces informations sont des informations où ils ensuite sont envoyées à ICANN pour le suivi. Si vous utilisez ce système, on envoie au registraire pour une enquête et on fait le suivi avec le registraire. Lorsqu'ils ne prennent pas les bonnes démarches d'enquête, nous faisons de notre mieux pour chercher une isolation de conformité s'ils ne font rien. Donc, il y a des allégations de membres de cette communauté ainsi que d'autres communautés qu'il y a des rapports de suivi qui sont inexacts pour notre système. Et nous sommes heureux d'enquêter sur ces questions. Parfois, nous n'attrapons pas tout, mais parfois, il y a des raisons pour lesquelles il y a un vide ou un suivi non standard. Il y a également des allégations que les suspensions de noms de domaine, nous regardons beaucoup cela en détail, comme j'ai mentionné dès le début de cette présentation, au cours des 6 derniers mois, nous avons évalué le programme WHOIS et nous continuons à le faire et nous avons invité des membres spécifiques de ce corps pour commenter sur nos activités de mise en œuvre des WHOIS et de fournir des commentaires. Et il y a également l'idée que les archives WHOIS sont actualisées sans changer la date, mais ce serait utile si cela était clarifié quant à la signification de cela, surtout en rapport au contrat spécifique. Et j'aimerais bien parler en ligne ou avec quiconque serait intéressé et donner davantage de détails. Les statistiques générales, un suivi entre registraires, on a peu importe les informations que nous pouvons publier au sujet du travail que nous faisons pour augmenter la transparence, pour mieux informer ce corps et de ce que nous faisons, je soutiens cette activité. Donc, dans la mesure où vous pouvez nous aider et que vous nous disiez ce qui vous serait utile, nous apprécierons. À Singapour, Maggie a invité ce corps ainsi que d'autres à soumettre une invitation ouverte pour soumettre des défis, des conclusions, et aux membres de son équipe. Et nous accueillons cela de manière continue. Maintenant, nous passons à l'article numéro 6, le statut de l'abus criminel, de la criminalité organisée et l'exploitation du consommateur dans le DNSS. Et bien sûr, ça, nous voulons faire une enquête. Certaines personnes ont remarqué que les registraires qui collaborent de près avec d'autres registraires ont tendance à avoir des problèmes. Et il y a une requête que peut-être ils aient des révisions additionnelles lorsqu'ils reçoivent l'agrément. Et ICANN peut les évaluer toutes les requêtes. Il n'y a pas de processus abrégé. Et les registraires, nous évaluons toutes ces applications de la même manière et ce n'est pas ce département, cette équipe particulière qui les évalue. Donc, en outre, sur le thème de la criminalité organisée abusant et le système et l'exploitation du consommateur, ça nous aiderait de comprendre, en ce qui concerne cette requête en particulier, ce que vous aimeriez savoir de nous et quelles informations et comment pouvons-nous transmettre ces informations. Je suis heureux de souligner les informations au sein d'une organisation qui pourrait augmenter la transparence, mais comprenez que les ressources et la motivation pour cela est vraiment utile. Donc, dans la mesure où ce corps fait des requêtes, plus nous avons des détails là-dessus, plus ça nous aide. Et sur le thème de la collaboration, parce que nous voulons collaborer avec ce corps et d'autres, cette entité et d'autres, nous avons des collaborations intéressantes avec la police, les entités de police à travers le globe au cours du dernier trimestre. Au cours de plusieurs réunions, ce travail est organisé à travers Carlos Alvarez, qui ne pouvait pas être ici, en même temps que Margie sera. Lorsque nous recevons des orientations de la police, notre rôle est de savoir si les informations contenues dans cette orientation montrent une brèche RAA, et sinon on prend les actions nécessaires. Donc, pour ceux qui sont sur le bridge, je vais m'arrêter de parler et ma collègue Stacy va prendre le micro et parler de la garde du dépôt. Merci. Je m'appelle Stacy Burnett. Nous avons reçu quelques questions au sujet du type de plainte sur les revendeurs et nous voulons fournir des informations et nous répondrons ainsi à vos questions sur les revendeurs. Premièrement, nous commençons en vous disant que tous les revendeurs opèrent sous l'ombrelle de l'agrément des revendeurs. Et nous n'avons pas de... Les revendeurs ont un contrat avec ICANN et un revendeur ne peut pas offrir des noms de domaine s'il ne les offre pas sous l'agrément d'un registreur agréé. Donc, toutes les actions des revendeurs, nous pensons que les registreurs sont responsables de ces actions parce que les revendeurs opèrent sous l'agrément du revendeur. En termes des données WHOIS, tous les registreurs doivent déposer les données d'enregistrement qu'ils vendent les noms de domaine directement ou qu'ils offrent ces noms à travers un revendeur. Donc, commençons avec cela. Et ensuite, nous voulons vous donner quelques données sur le nombre de plaintes liées aux revendeurs. Nous avons reçu entre juin 2011 et septembre 2011, nous avons reçu 360 plaintes se rapportant aux revendeurs. C'est environ 6% de toutes les plaintes que nous recevons pendant cette période. Ce n'est pas un grand nombre, mais on ne peut pas l'ignorer non plus. Je voulais vous dire le type des plaintes contre les revendeurs que nous recevons et vous donner des informations de fond là-dessus, donc pour que vous compreniez les plaintes. Nous recevons des plaintes sur les revendeurs qui enregistrent les noms de domaine pour les autres sous leur propre nom. Donc, je vais vous l'expliquer. Il y a plusieurs entités qui offrent plusieurs services tels que le design de sites web. Et dans le cadre du site web, ils offrent également l'enregistrement de noms de domaine afin que vous puissiez mettre sur pied un site web. Ils offrent plusieurs services. Et lorsque ces revendeurs qui offrent beaucoup de services et qu'ils sont en faillite et qu'ils ont enregistré le nom de domaine sous leur propre nom, alors la personne qui utilise ce site web va connaître des difficultés à transférer ce nom de domaine parce que ce n'est pas en son nom. Il n'apparaît pas dans les données WHOIS. Donc, c'est un problème. Et cela s'est produit auparavant où les entreprises ont fait faillite et c'était le revendeur. Et ceux qui utilisaient ce nom de domaine étaient vraiment embêtés à contre-Aken et à tous aux gens qui en parlaient. Ils ne comprenaient pas le système de nom de domaine. Ils n'avaient pas réalisé l'importance d'avoir leurs propres informations affichées dans les données. Whois, donc, c'est l'un des problèmes que nous, auxquels nous sommes confrontés. Un autre problème, c'est que les registrants ne comprennent pas exactement qu'ils ont affaire avec un revendeur plutôt qu'un ICANN. Donc, beaucoup de gens ne lisent pas le contrat et ils savent qu'ils ont affaire avec une compagnie XYZ et ils pensent que c'est le registraire agréé par ICANN. Donc, cela produit des problèmes, cause des problèmes et crée de la confusion pour les gens qui essaient de résoudre un problème. Souvent, les revendeurs et les registraires ne communiquent pas sur un problème de nom de domaine. Donc, si une partie a des difficultés à transférer un nom de domaine et qu'ils veulent contacter le revendeur les envoie promener à ce moment, ils peuvent appeler ICANN et nous, on voit qui est le registraire parce que nous avons un contrat avec le registraire. Nous les contactons au sujet du problème et le registraire n'en sait rien. Alors, il nous dit souvent, « Oh, mais c'est un problème du revendeur. » Appelez le revendeur. « Non, on a un contrat avec vous. C'est à vous de résoudre ce problème. » Donc, manque de communication entre les parties est un problème courant. Également, les registraires ne sont pas obligés de divulguer les rapports à ICANN. Donc, cela constitue un problème lorsqu'on essaie de déterminer qui est en relation avec qui. Donc, voilà quelques commentaires, plaintes courantes. Et la communauté dit que ICANN doit savoir qui est en rapport avec qui et qui sont les affiliés des différents registraires. Donc, voilà quelques plaintes courantes que nous recevons. Et je voulais vous dire quelques amendement RAA concernant les revendeurs. Un de ces amendements était donc de définir le terme d'un revendeur dans le RAA, demander au registraire d'identifier le revendeur et affilié, clarifier la responsabilité du registraire pour la conformité du revendeur et exiger que les registraires déposent toutes les données d'enregistrement par procuration et d'informations privées. Donc, voici quelques amendements RAA. Et je voulais tout simplement vous donner ces informations. J'espère que cela répond aux questions concernant les revendeurs. Donc, nous avons eu également des questions sur les amendements RAA qui ont été proposés pour améliorer l'efficacité de la conformité. Cette diapositive vous donne des informations sur le processus pour le développement de ces nouveaux amendements RAA. Je n'ai pas besoin de passer cela en revue en détail parce que la plupart des gens ici sont à l'AC. Vous avez probablement été informés quant à l'élaboration de ces amendements RAA, mais dans le cadre des amendements RAA, ICANN propose des amendements sur 13 sujets différents. Et je voulais partager avec vous quelques amendements que nous pensons ont été proposés et qui ont réussi à rentrer sur la liste des priorités. Des amendements de haute priorité, de priorité moyenne. Donc, les amendements qui ont été proposés pour améliorer l'efficacité de la conformité qui sont arrivés sur la liste finale de la haute priorité et de priorité moyenne sont affichés sur l'écran. Les provisions RAA sur le cybersquatting, pendant une période, nous avons reçu beaucoup de plaintes là-dessus et il n'y a pas d'exigence RAA spécifique pour le réseau. Donc, c'est un problème pour le département de la conformité lorsque les gens se plaignent et disent « Vous ne faites rien là-dessus ». Et nous n'avons pas de formulation spécifique ou de texte spécifique pour nous dire ce qu'on doit faire. Donc, les affiliés de registraires, les revendeurs et comment ils peuvent être complices dans des comportements malicieux, c'est important parce que nous avons souvent des plaintes de la communauté qui que ICANN n'a pas suffisamment d'informations sur vos partenaires commerciaux avec lesquels vous avez ce contrat et vous avez besoin d'informations pour avoir l'ensemble du... pour bien comprendre les choses. Donc, cela est rentré sur la liste des priorités des amendements. RAA également une question sur les comportements malicieux, une obligation des registreurs d'investiguer les comportements malicieux. Cela, c'est quelque chose qui est important pour la conformité parce que, pour le moment, il n'y a pas d'obligation d'investiguer. Les entités de police viennent à nous et ils essaient de nous pousser pour faire quelque chose. Il n'y a pas de contrat spécifique, d'accord, de provision contractuelle exigeant cela. Donc, cela est rentré sur la liste également. Également, clarifier les exigences de Ruiz en matière d'enquête. Donc, il faut que les informations soient exactes et ce n'est pas encore les exigences contractuelles. L'équipe de conformité vraiment serait très heureuse si des explications étaient, clarifications étaient fournies là-dessus. Également, étendre la portée de la suspension RAA. On a eu quelques expériences selon lesquelles les registraires ont abandonné leur entreprise et il n'y a pas de provision contractuelle qui aborde cela. Non. Donc, ces registres ont d'autres problèmes de contractuel et on a pu continuer sur la base de ces autres problèmes. Mais s'ils avaient laissé tomber les entreprises, alors on aurait été en situation difficile. Donc, nous proposons d'améliorer, d'étendre la portée de la suspension RAA et ça également figure sur la liste des priorités moyennes. Recommandations provenance d'ICANN qui ne figurent pas sur la liste des grandes priorités ou des priorités moyennes. Une préoccupation, c'est le point de contact pour les affaires liées à la conformité, bien qu'il y ait un contact principal pour que les registraires listent et c'est ce qu'on appelle le radar du système qui inclut les informations de contact pour les registraires. Nous étions intéressés à avoir un point de contact spécifiquement pour les points de conformité. Les gens qui sont identifiés comme points de contact primaires ne connaissent pas le contrat. Peut-être qu'ils ne connaissent pas ses obligations. Ils peuvent être tout simplement une personne liée du département de la communication. Donc, on veut quelqu'un qui connaisse les obligations du registraire. Également, on a eu une autre requête pour avoir une production de documents par e-mail, par messager ou fax, télécopie. Dans le contrat, pour le moment, vous devez faire un audit et l'audit, les provisions de l'audit demandent que ces informations en 15 jours, le registrer à 15 jours pour demander ces informations. Et s'il y a une situation d'urgence et qu'on ne fait pas un audit, mais on a besoin des informations en 3 jours, le contrat ne l'exige pas pour le moment. Donc, on pense que c'est un manquement vide, mais il ne figure pas sur la liste des grandes priorités, des priorités moyennes. Mais d'après ce que j'ai compris, en parlant des membres de l'équipe de conformité, c'est pas parce que certaines questions ne figurent pas sur la liste des grandes priorités, des priorités moyennes. Rien n'empêche à quelqu'un qui fait partie de cette équipe, qui tient compte des amendements RAA, d'essayer de faire figurer ces questions sur la liste plus tard. Donc, voici une mise à jour sur où les amendements proposés RAA se trouvent. D'après ce que j'ai compris après la réunion de Dakar, il y aura un rapport qui sera publié sur quelques décisions qui ont été prises au sujet des amendements RAA. Et une question posée à la conformité au sujet d'une charte des droits des registrants qui soit plus favorable aux utilisateurs. Ce qu'on cherche de l'équipe de la conformité également, une clarification. Donc, on ouvre le débat pour des questions. Quelqu'un peut-être peut nous donner des informations sur les données que vous cherchez par rapport à cette question particulière. Donc, Maggie et moi, Khalil l'a mentionné également, nous avons une session de sensibilisation jeudi qui est demain et pendant la session de sensibilisation, la première heure et demie, nous allons parler de l'auto-évaluation des registraires, qui est un nouvel outil que nous utiliserons afin d'évaluer la conformité et les termes contractuels. Mais après 10h45 et midi, nous vous donnerons la possibilité d'avoir des discussions en direct, face à face avec quelqu'un au sujet de n'importe quel sujet, au sujet de la conformité. On ne l'a jamais fait auparavant, mais on pense que c'est une bonne idée pour les gens qui ont des questions au sujet de la conformité et qui demandent un échange d'idées. On n'a que peu de temps pour ce genre de réunion, mais on comprend l'importance que vous obteniez donc des réponses complètes. Donc, on espère que vous viendrez à cette session et qu'on va vous donner deux opportunités d'avoir un dialogue ouvert avec nous. Donc, vous pouvez revenir à 10h45 midi ou bien revenir à 2h, à 3h30. Donc, c'est la fin de notre présentation. Maintenant, nous passons à la section questions-réponses. Merci, Stacy. Et je vois beaucoup de mains levées. Donc, merci pour cette présentation que vous avez prise à partir des questions soulevées. Je vois une file d'attente et je ne sais pas si cela se rapporte à une diapositive spécifique et on reviendra à cette diapositive et on va commencer avec Garth et Alan, Beau et Jean-Jacques Subruna, Holly également. Donc, et ça commence par Garth et ensuite Jean-Jacques, parce qu'il m'a dit tout de suite, et Beau, etc. Garth. Merci, je m'appelle Garth Brown. Merci pour cette réunion. J'apprécie l'opportunité de ce dialogue ouvert, dans un forum ouvert. Donc, la première série de questions a été préparée à mon intention. Et comme Olivier a dit, ce n'était pas vraiment au nom de Halak, mais au nom d'utilisateurs qui m'ont contacté avec leurs préoccupations. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais aborder quelques points spécifiques dans la présentation. C'était une très bonne présentation et je préfère de loin cela à la présentation statique. Pour moi, c'est une meilleure manière de procéder. J'ai entendu beaucoup d'informations au sujet de ce département qui fait ceci, celui-là, il fait ça. La conformité ne traite pas cela principalement. Et la conformité n'a qu'un personnel limité. On essaie d'augmenter ce personnel, mais on peut tous apprécier. On comprend ces problèmes d'ordre administratif, mais si ça continue à être le problème, alors peut-être que Atlas ou Alac devrait expliquer l'importance de la conformité et qu'on a besoin de davantage de ressources et d'attention là-dessus si les ressources manquent. Surtout, en particulier, Khalil a soulevé les avis de non-renouvellement qui ont tous été affichés. J'ai une liste de 123 registraires qui ont trépassé et 15 avis de non-renouvellement affichés. Je vais devoir consulter ma liste et revérifier le tout et je vais vous envoyer la liste que je vais trouver. Je crois qu'il y a des registraires plus anciens qui, peut-être à la suite d'un abandonnement, qui devraient être également documentés. En ce qui concerne les registres actuels, nous entendons souvent qu'il y en a plus de 900 et je pense que c'est peut-être erroné et on doit avoir davantage d'informations là-dessus. Il doit y avoir probablement un peu plus de 400 et un petit nombre d'entreprises qui ont un grand nombre d'agréments. Selon moi, et pour beaucoup de personnes, cela ne reflète pas une véritable compétition, concurrence sur le marché. Et nous devons avoir eu des informations transparentes sur l'influence de ces entreprises sur le marché des noms de domaine. Donc, Garth, je suis Khalil. Pour les interprètes, vous avez mentionné que nous disons souvent qu'il y a 987 registraires. Nous, on fait on fait le contrôle, on ne regarde pas à qui le registraire est ami et affilié. On regarde un accord et on voit s'ils ne sont pas en violation de contrat. Pour le moment, il y en a plus de 900 accords d'agrément entre ICANN et d'autres parties et chacun est responsable pour le responsabilité en ce qui concerne les noms de domaine en fonction de cet agrément. Donc, c'est cela que je dis quand je parle de conformité ou la compliance contractuelle. Je comprends l'argument, mais peut-être que la formulation devrait être qu'il y a plus de 900 agréments, mais pas 900 registraires. Ils utilisent des compagnies coquilles, donc fantômes, donc ils ont les mêmes PDG, ils ont même le numéro de téléphone et beaucoup de leurs sites web fonctionnels réorientent vers le même site web où ils ont le même format.
Merci beaucoup, Garth. On vient de me dire que Crystal Hutt lève la main dans la salle adobée. Depuis un moment, je m'excuse, je n'avais pas vu. Bien, donc Chris, vous êtes là ou vous nous suivez à distance? Crystal. Et le nouvel ombudsman de ICANN. Bien, maintenant, Alain, vous avez la parole. Merci. Merci, Alain Greenberg. Deux questions concernant les vendeurs et la diapo. Hein. Le premier. Dans quelle mesure, je sais que vous faites des audits de différents types sur les registraires, dans quelle mesure vous faites cela parce que vous ne pouvez rien faire de plus définitif par rapport aux vendeurs? Nous n'avons pas de contrat avec les vendeurs, nous n'avons pas de contrat avec eux, donc nous ne faisons pas d'audit pour les vendeurs. Nous faisons cela avec les registraires autorisés. Vous n'avez pas besoin de contrat pour faire cela. Vous n'avez pas besoin de contrat pour regarder leur site Internet, par exemple. Et je suggérerais que, comme je l'ai déjà fait, la question des vendeurs aborde certaines questions, identifie certaines questions. Et je pense qu'on pourrait voir qu'ils font, que fait chacun. Hein. Il faut reconnaître que les vendeurs vendent des registres de noms sans suivre une série de règlements qu'ils devraient suivre. Donc, c'est quelque chose qui peut vous aider à réduire les problèmes qui existent. Hein. Donc, si vous voulez, on en parlera après un peu plus précisément. Ensuite, les questions des vendeurs, toujours. Les registraires nous ont toujours dit que les contrats standards, ce qui fonctionne, ne leur enlève aucune responsabilité dans le contrat. Donc, les sous-contrats ont peut-être moins de succès, mais le RA de 2009 a mentionné le concept de vendeur, non? Les RA de 2009 a mentionné le concept donc de vendeur pour la première fois et il dit que certains des prérequis des RA doivent être aussi respectés par les vendeurs. Mais pas tous, certains seulement. Donc ces deux déclarations, et j'accepte le fait que ces dispositions peuvent ajouter de la clarté à la RAA de 2009, mais je ne comprends pas très bien la première partie qui dit « tous les prérequis doivent être appliqués par certains, que ce soit les registreurs ou les vendeurs », et l'implication qu'il y a certaines choses que les vendeurs n'ont pas besoin de faire parce que ça ne figure pas dans le RAA de manière explicite. Est-ce que vous avez des commentaires? Oui, Khalil, c'est Khalil qui parle. Ce serait très utile que vous nous fassiez savoir le type de choses dont vous parlez pour le bénéfice des personnes de la salle qui n'en sont peut-être pas au courant. Hein? Donc, nous fournir ces renseignements. En plus, je suis heureux de vous dire que la langue dans laquelle tout cela est rédigé, on peut revenir sur ce point pour les éclaircir, hein, revenir sur ces dispositions. Si vous voulez, on peut en reparler demain. Je ne sais pas si je serai disponible demain, mais je serai ravie de venir en parler avec vous par email ou quoi. Merci. Merci, Khalil. Je fais des blagues de temps en temps sur la présence de certains, mais voilà, donc il y a une Chris qui est venue nous rejoindre et elle est venue. Il est venu. Je voudrais. Je vous suivais de mon bureau, mais je trouve que c'est plus sympa d'ici. Je suis Chris Lahed. Je suis l'ombudsman ou le médiateur. Hein, et je voudrais vous parler un petit peu de tout ce qui concerne la non-conformité. Lorsque des personnes se plaignent pour des questions de conformité, ils se plaignent à l'ombudsman ou au médiateur. Et je pense que la communauté doit savoir que j'ai des pouvoirs très limités dans beaucoup de domaines de problèmes ou de plaintes. Donc, vous pouvez m'envoyer un email qui me dise... je vais vous envoyer un email vous disant je m'excuse, je suis navrée, mais je peux rien faire. Hein, très souvent, dans ces cas-là, les personnes peuvent se plaindre, mais pas auprès de l'ombudsman s'ils veulent un résultat. Ce n'est pas vraiment la personne indiquée. Merci, Chris. Bien, nous avons maintenant Jean-Jacques qui va prendre la parole. Merci, Olivier. Je voudrais faire deux remarques et poser une question. D'abord, je voudrais dire merci à l'équipe de conformité parce que j'ai vu, en tant que membre du directoire et en tant que membre d'ALAC, j'ai vu beaucoup de progrès. Donc, nous comprenons le travail qui est réalisé. Il est de mieux en mieux. Donc, merci. Mes deux remarques. La première, et quelque chose que beaucoup de personnes de l'équipe de conformité ont dit. Lorsque Garth dit, vous avez dit que nous, l'équipe de conformité, etc., moi, en tant que membre de l'ALAC, j'attends que lorsqu'un problème est présenté, on offre une réponse. Hein? Comment est-ce que vous travaillez avec d'autres parties de l'ICANN et les équipes d'ICANN ne nous intéressent pas? Nous, ce qu'on veut, c'est une réponse. Donc... je voulais préciser cela. Ma deuxième remarque concerne les innovations. Oui, je pense que ICANN est une corporation californienne, ce qui dépend de la loi californienne, mais ce que vous faites est d'une grande importance au niveau international parce que vous créez non pas un corps de loi, mais ou non pas une législation, mais un ensemble de meilleures pratiques et très souvent des précédents. Hein? Et cela, on va s'y rapporter par la suite. Hein? Donc, je pense qu'il faut être conscient de cela. C'est important. Nous, au niveau de la communauté à large, nous devons être davantage conscients du fait que les choses ont lieu dans ICANN et qu'une grande partie de ces choses-là ont lieu au niveau de la conformité contractuelle. Maintenant, ma question. Si on regarde le futur, il y aura des changements démographiques dans tout le monde des registraires. Actuellement, et pour des raisons historiques, l'Amérique du Nord, l'Angleterre, l'Australie, quelques autres sont ceux qui possèdent le plus ce type de secteur de service, mais je ne pense pas que ça restera le cas dans les 500 ans à venir. Les choses peuvent changer. D'abord, pour une question démographique de l'Internet, la Chine, le Brésil, l'Inde, hein, sont des pays qui vont où il y a une croissance énorme. Quelles sont les conséquences que vous prévoyez à cause de cette internationalisation de l'Internet en termes de lois internationales, de législation internationale? Est-ce qu'il y aura davantage de références à d'autres lois et pas seulement à la loi californienne pour l'application des contrats? Et ensuite, un autre aspect, c'est que tout n'est pas écrit en anglais. Hein, en ce qui concerne ICANN, hein, les contrats ne sont pas toujours en anglais. Ah, excusez-moi, on a une traduction, donc je supprime ce que je viens de dire. Donc, la première partie de ma question était à cause de ces changements démographiques dans le futur, il va y avoir des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil qui vont apparaître davantage sur le marché. Est-ce que vous envisagez des conséquences à cause donc de l'expansion, de l'essor de ces segments et concernant et la conformité contractuelle? Oui, je dirais qu'actuellement, il y a une croissance d'Internet qui a lieu en Asie, par exemple, et il y a aussi une série de défis qui vont continuer à surgir. Je suis avocat et je pense que tout cela, il faudra affronter ces défis, mais je pense que WIS, au niveau du nom de domaine international, ajouter d'autres langues, la question de WIS et les défis que ça représente, il y aura beaucoup de défis. Et l'organisation doit être préparée à relever ces défis et à continuer à s'accroître, à grandir au niveau international, à tous les niveaux. Merci, Khalil. Merci, Jean-Jacques, pour votre question. Maintenant, Bot, Khalil, Dave, et nous sommes en retard. Je suis navrée pour Bo, et il a dû attendre. Bo, vous avez la parole, allez-y. Merci. Est-ce que vous pourriez revenir à la première diapo que vous avez présentée ici? Non. Ici. Celle-là. J'ai une série de questions à vous poser sur cette diapo. On a dit 9% de registraires qui sont encore sous le RAA de 2001. C'est ça le chiffre? 7%, pardon. 7% plus ou moins. Et sur ces 7% de registraires, lorsqu'ils tombent, à quel moment est-ce qu'ils vont passer est-ce qu'ils vont dépendre du nouveau RAA? Je ne sais pas si c'est, la question est quand, mais si plutôt. Hein, dans quelle mesure, hein? Parce que il y a une série de données, je n'ai pas ces informations devant moi, je peux vous les donner personnellement, mais il y a une série d'années, je crois que la dernière est 2014. Je serais intéressée pour les données, d'avoir des données pour le nombre de plaintes de plaintes qui ont été déposées contre ces registraires, hein, et savoir les raisons pour lesquelles donc on a fait cela. On peut faire cela, si vous voulez, on peut en reparler ensemble. Je voudrais savoir quelle est la proportion de plaintes contre ces registraires. Il y a qui sont sous la législation des RAA de 2001. Si vous voulez, on le voit après ensemble. Ok, bien, très bien. Bien, parfait. Nous en reparlerons ensemble. Donc, et bon, je vais passer à la dernière question. ICANN et l'autorisation d'ICANN concernant et les possibles. Est-ce qu'on a parlé d'une possible, un possible agenda pour que vous receviez le nombre de registraires qui font une plainte, hein, ou qui remettent en question leur agrément sur un site web ou dans le. Est-ce que vous pouvez éclaircir votre question? Je n'ai pas compris. Il y a une série de registraires qui disent qu'ils sont autorisés, agréés par ICANN. Ils le sont probablement. Mais en général, si on fait une révision de leur pratique, on se rend compte qu'ils ne sont pas conformes. Donc, c'est un nombre important de registraires. Et bon, d'accord, oui, oui. Je voudrais ajouter quelque chose ici. Stacy, oui. Est-ce que je pourrais vous demander de dire votre nom? Stacy Bernon. Entre Ball et Khalil, peut-être la transcription pour savoir qui parle, mais sinon, Stacy, oui. Stacy Brunette. Je voudrais un petit peu préciser. Est-ce que vous demandez si ICANN a considéré la possibilité de mettre quelque chose sur un site web d'enregistreur indiquant qu'il y a une non-conformité parce qu'ils ont un agrément sur leur page qui doit figurer, donc on va leur demander de modifier cela? Bob Brandon, non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a un grand nombre de registraires qui vont déclarer qu'ils ont un agrément de votre part, qu'ils sont agréés par vous, mais qu'ils ne devraient pas être agréés. C'est assez facile de trouver deux ou trois termes dans lesquels ils ne sont pas conformes. Hein. Donc, même s'ils ne sont pas conformes, dans la mesure où ils ont été... dans la mesure où il n'y a pas de contrat avec nous, ils peuvent rester agréés. Lorsque nous envoyons un avis d'infraction à un registraire, le registraire a 15 jours pour corriger cela. Mais il va continuer à être un registraire, il va continuer à conserver sa page, et c'est seulement parce que nous n'avons pas de contrat avec eux. Et c'est seulement lorsque nous n'avons pas de contrat avec eux, pardon, qu'ils sont obligés de dire qu'ils ne sont pas agréés par ICANN. Hein. Donc, ils restent agréés, même s'ils ne sont pas conformes. Hein. Donc, lorsqu'on remarque qu'il y a deux ou trois enfreintes à l'ALIA, hein, on peut donc poursuivre cela s'il y a des infractions. Hein. Et à ce moment-là, les choses doivent suivre leur cours. Merci, Beau. Merci, Stacy. Ensuite, Holly Reich de la Société Internet, une question et un commentaire. On veut faire donc des amendements, des modifications proposées pour les RAA, mais il y a beaucoup de points qui sont identifiés comme prioritaires. Je me rappelle une fois où à 4 heures du matin, je me suis disputée là-dessus et c'était il y a 2 ans et la haute priorité, vous voyez, elle s'est toujours pas appliquée. Hein. Nous n'appartenons pas à l'équipe qui considère les modifications des RAA et donc j'ai identifié pour vous ce que certaines de ces modifications vont comporter et les modifications à faire par l'équipe responsable de le faire. Donc si vous voulez prendre une décision rapide, hein, il faut d'abord parler avec cette équipe. 2 ans, hein, je dirais que ce n'est pas vraiment être pressé. Et on nous demande le droit du registrant dans le domaine des RAA. Cheryl a travaillé et s'est disputée à 4 heures du matin comme moi. Hein, mais l'idée, c'est que si l'on lit le document qui est posté sur l'Internet, il explique ce que ICANN fait, mais il est tout à fait incompréhensible pour quelqu'un qui n'a pas travaillé pour ICANN au cours de ces dernières années. L'idée de base du document qui était... L'idée de base était que on expliquait quelque chose pour des personnes qui ne connaissaient pas ICANN et qui pouvaient être titulaires d'un nom de domaine et voulaient comprendre quels étaient les droits et leurs obligations qui pouvaient leur donner une protection ou pas. Et l'idée, et je pense qu'Olivier, je peux en parler si vous voulez, l'idée est de transférer ce qu'il y a dans le RAA dans une espèce d'information que le titulaire d'un nom de domaine doit connaître, doit savoir. Donc, je voudrais partager cela avec Stacy Brunette. Oui, je voudrais partager cela avec vous. Nous avons une version anglaise simple de la RAA. Elle n'est pas assez bonne. C'est exactement ce que je disais. Cela répète la même chose. Et je dirais que si on ne connaît pas ICANN, ça n'a aucun sens. Donc, ce que l'on va faire, on va envoyer un message aux organisations d'ICANN. Vous allez en faire une priorité importante? Oui, on va essayer de donner une grande priorité à ce problème. Hein? Bien. Je voudrais dire que je voudrais que ce soit traduit en un document plus simple et il faudrait que ce soit fait rapidement parce que l'Internet est en plein essor. Beaucoup de gens utilisent des noms de domaine et doivent connaître ces réglementations, quels sont leurs droits, hein, et etc. Merci. Merci, Holly. Merci, Stacy. Je suggérerais maintenant que l'on fasse une déclaration ou un point d'action pour dire que ICANN continue à persister à demander cela, insiste à demander cela et que cela n'est pas fait et qu'on voudrait que ce soit fait. Excusez-moi, Maggie, mais c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que nous entendons cette plainte en permanente. Hein. Donc, il ne faut pas que ça continue à arriver. Maggie, c'est moi, Maggie. Oui, je dirais que ce n'est pas quelque chose qui existe depuis si longtemps que ça. À l'époque de Jean-Jacques, et l'équipe avec laquelle vous travaillez, hein, on peut, vous pouvez nous envoyer, si vous voulez, et vos problèmes, mais il vous faut insister. Je sais qu'il vous faut insister. Hein. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire. Hein. Voilà, ça, c'est la réalité. Je sais. Hein. L'équipe est composée d'une série de parties prenantes comme le GNSO, comme ALAC. Il y avait beaucoup de gens qui participaient à cette conversation téléphonique et qui représentaient tout le monde. Hein. Merci, Holly. La prochaine personne, Alain. Ce n'était pas directement lié à cette discussion. Donc, Alain, s'il vous plaît, soyez bref. Je ne vais pas faire de commentaires sur le fait que ICANN doit s'exprimer dans un document simplifié. Je voudrais faire un commentaire sur Holly concernant le temps qu'on prend pour mettre en place des choses prioritaires. J'ai fait un commentaire disant que si on veut regarder la transcription de la réunion du GAC du GNSO, vous le trouverez tout de suite. Holly n'est pas la seule personne de cette organisation qui se demande combien de temps il faut prendre pour faire des choses simples, mais je pense qu'on a quand même des résultats. Et il faut voir un petit peu, bon, plusieurs personnes ont été donc contactées et je pense que ça devrait maintenant avancer. Je suis tout à fait optimiste, oui. Dave? Merci, Monsieur le Président. Dave Antilaxing, secrétariat d'Akralo. En ce qui concerne la question 2, la publication de la vie du cycle complet de la conformité de registre, c'est quelque chose qui était prévu. Est-ce qu'il existe un temps entre la première enquête, la deuxième enquête et la troisième enquête, un délai, et est-ce qu'il y a de nouveau un délai entre la vie finale? Est-ce que cela dépend de l'importance de l'infraction magistrale, hein, la partie de conformité contractuelle. Oui, c'est un niveau d'approche important. C'est une question intéressante. Le délai de 1 à 2 à 3 dépend du secteur de conformité. Hein. S'il s'agit de quelque chose d'un dépôt de données est un peu important, non. Mais sinon, ça peut être différent. Nous allons mettre cela ensuite sur des diapos et nous allons vous montrer les délais que l'on applique pour chacune de ces choses. Hein. Nous vous le montrerons ensuite. Mais c'est une très bonne question. Merci. Merci, Maggie. Nous avons une question de plus de Cheryl. Cheryl, vous êtes donc la prochaine. Merci, Monsieur le Président. Je suis Cheryl Langdon-Nord. Comme vous le savez, j'ai travaillé il y a quelque temps avec le secteur de conformité et je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et normalement, le type de défense que je fais dans mon travail, et je dois dire qu'on doit prendre un petit peu de temps pour reconnaître les avancées importantes que nous avons réalisées, que nous avons vues dans ce domaine. Il faut reconnaître aussi qu'on ne peut pas, qu'il y a certaines limitations qui sont de type humain, hein, mais qui sont nos équipes, par exemple. Hein, mais je dirais que nous travaillons avec des gens qui sont des gens normaux, hein, qui ne savent pas comment ICANN existe, ni comment ça s'écrit, par exemple. Hein. Donc, ils ne savent pas non plus un tas de choses. Et nous ne savons pas, hein, ce qu'ils ne savent pas. Donc, je voudrais... Donc, on parle un petit peu peut-être dans ce domaine-là des nouveaux GTLD. Il y a des opportunités ici pour nous de répondre à des questions fréquemment posées, hein, et pour que les gens soient bien à l'aise avec cette question. Et si je devais donner cela à un pêcheur sur la plage, par exemple. Dans les pays de l'Asie dans lesquels j'habite, dans leur langue locale, ils devraient pouvoir le comprendre. Hein? Donc, c'est ça qui compte. Hein? Pour conclure, je dirais que, à mon avis, il y a des progrès qui ont été faits et importants, mais nous sommes freinés par la structure de ICANN. Très souvent, ce n'est pas votre faute. Si je devais concevoir quelque chose, hein, ce serait quelque chose qui ressemblerait beaucoup au modèle sur lequel nous sommes en train de travailler. Et je pense que nous devons être très soigneux et très proactifs lorsque nous rentrons dans le monde des nouveaux GTLD. Et je pense que j'aimerais que ICANN aille dans cette direction, exactement comme ALAC va dans cette direction. Merci, Charles. Je crois que Maggie veut répondre. Est-ce que Maggie veut répondre? Il y a autre chose, un point ici important, car nous n'avons plus le temps, juste un point d'action ici. La diapo 19, j'ai appris beaucoup de choses sur donc, les plaintes. Hein. Il y a peut-être davantage de plaintes que ce que nous faisons. Il serait intéressant pour nous d'avoir une liste de ces plaintes, parce que les plaintes arrivent souvent après un problème, une mauvaise action du registrant ou un problème du registrant. Donc, on peut se demander et si on peut mieux éduquer nos utilisateurs, notre clientèle, hein, la clientèle du registrant, pour qu'il puisse y avoir moins de plaintes. Je pense que ce serait très utile d'avoir une liste des plaintes les plus courantes que vous recevez et à ce moment-là, avec des réponses suggérées pour éviter de tomber donc toujours dans le même piège, hein, dans les mêmes questions. Nous travaillons actuellement avec les registraires et avec les registres pour essayer de mettre sur pied un système de questions fréquemment posées et de réponses, tout ça sur un site. C'est quelque chose qui serait très utile, hein, et AtLarge doit faire un peu le suivi de cette décision. Je dirais la même chose, hein, que ce que j'ai dit à Singapour en conclusion. Envoyez-nous un email avec vos commentaires. Tout le monde veut avoir un système de conformité contractuelle. Nous avons 5 groupes de parties prenantes différents. Vous pouvez imaginer la diversité des attentes. Hein? Donc la conformité... Hein, et demande aussi des commentaires. Quelles sont vos attentes? Mais de vous, de nouveau, Charles, je dirais, qu'est-ce que j'ai quelque chose à vous dire, Charles? Je dirais que, outre la structure et les équipes, nous avons aussi des positions. J'ai le soutien et la confiance des équipes exécutives et de la direction. Et c'est quelque chose qui est important et beaucoup de gens ne peuvent pas le dire. Outre cela, les questions et les réponses, informez-nous des informations aussi du point de vue de différentes perspectives. Nous pouvons envoyer un message et faire... Moi, je viens du secteur... de l'automobile. Hein. Un département ne peut pas faire tout depuis la fabrication jusqu'à la vente. Il faut qu'il y ait différents départements avec chacun leur rôle et leur responsabilité. Donc, reconnaître nos rôles et nos responsabilités, hein, c'est très important. Nous pouvons passer le message, mais il y a différents secteurs, différentes choses, différents domaines. Hein. Donc, envoyez-nous vos commentaires. N'attendez pas, hein, s'il vous plaît. Hein. N'attendez pas que 2 ou 3 jours avant la réunion d'ICANN, hein, on réponde et on est toutes les 8 personnes de notre équipe qui essayent de voir comment traiter votre problème. Hein. Non, envoyez-moi, s'il vous plaît, cela à l'avance. Soyez courtois, vous représentez la communauté. Si une question est urgente et qu'elle ne peut pas attendre et qu'elle ne peut pas attendre des mois, envoyez-moi un email pour me le dire. Mais si c'est une plainte, nous avons un système de plaintes. Donc, allez sur le site internet et vous serez mené à la partie des plaintes. Les emails que je partage avec vous, c'est pour les attentes d'amélioration et pour vos commentaires. Merci beaucoup. Venez donc participer à la session de questions et de réponses parce que les autres sessions sont spécifiques pour certains donc, domaines que nous abordons. Une dernière question d'un participant à distance, Jolie McPhee, qui a une question. Je vais lire cette question. Je suis de Julia Maxi. Elle demande quelles sont les prévisions qui sont faites pour les efforts de conformité actuels. Est-ce qu'il pourrait y avoir davantage de rapports faits sur les cas, sur une base de cas par cas? D'abord, je voudrais parler de la diapo 9, mais la question est quels sont les mécanismes? Non, c'est ça la question. Oui, quelles sont les dispositions qui sont prises pour les efforts de conformité actuels? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un système de reporting basé sur des cas au cas par cas? Je ne comprends pas très bien cette question parce que les registraires doivent présenter leur conformité. Et le registraire a une auto-évaluation, mais nous demandons au registraire de nous montrer, de certifier ce qu'ils font. Je serais ravie d'aborder cette question par email, si vous voulez, ou si vous voulez me contacter personnellement, je répondrai à votre question. Merci, Matt. Merci, Khalil. Carton, est-ce que vous êtes toujours là? Nous sommes très en retard. Merci, Monsieur le Président Carlton. Vous savez, j'écoutais et je pensais que le problème, tel que je le vois, je crois qu'on est tous d'accord, le problème, tel que je le vois, est unanime. On est tous d'accord. Le modèle, et c'est le problème. On n'aura jamais assez de ressources ou assez de temps pour faire tout ce qu'on doit faire. Donc, ce dont on a besoin, c'est une approche différente pour cela. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Vous avez dit que vous devez consacrer du temps à vous préparer aux réunions pour répondre à ces questions et que vous faites cela tous les ans, trois fois par an. Combien de temps ça vous laisse pour faire le travail réellement? Donc, un petit peu de soutien, Et vous aurez ce problème aussi parce que les chiffres augmentent en termes de prérequis de conformité, de nécessité de conformité. Donc, on n'a pas de contrôle et on voit que c'est une question compliquée pour vous, mais vous avez besoin de travail, de collaboration avec d'autres départements pour le faire. Donc, ce que je vois ici, c'est un modèle qui n'est pas fait pour son objectif. Voilà ce que je pense. Il faut en sortir de ce modèle. C'est pour ça que je dis tout le temps, nous avons besoin d'une nouvelle approche pour cette question de conformité. Le modèle n'est pas le bon. Il n'est pas adapté à l'objectif. Ça, c'est le problème. Carlton, est-ce que vous pourrez revenir? Et nous avons d'autres réunions. Le modèle évolue. C'est ce que je pensais qu'il était important. La raison pour laquelle nous avons... Je ne défends pas mon équipe. La soumission a eu lieu trois jours avant la réunion. Donc, je veux vous dire que je n'ai pas de réponse. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Mais nous évoluons. Le modèle évolue pour la conformité contractuelle. Et donc, s'il vous plaît, venez vendredi. Je dois partir maintenant, mais j'aimerais en reparler avec vous. Bon, Maggie, merci à tous. Rachid, merci à tous pour votre présence ici. Cette question est très importante. Il y avait une certaine passion dans le débat, donc j'espère que tout le monde a compris que c'était très utile. Merci.